La princesse aux cheveux d'or. Il y avait aux Indes une princesse aux cheveux d'or. Elle avait une marâtre qui la détestait à tel point qu'elle persuada le tsar de l'exiler dans le désert. On emmena donc dans le désert la princesse aux cheveux d'or et on l'y abandonna. Le cinquième jour, la princesse revint chez son père, à cheval sur un lion. Alors, la marâtre conseilla au tsar d'égarer sa belle-fille dans les montagnes sauvages où ne vivaient que les vautours. Le quatrième jour, les vautours la rapportèrent chez son père. Alors, la marâtre fit exiler la princesse sur une île déserte. Des pêcheurs la ramenèrent devant le tsar. Voyant cela, la marâtre ordonna de creuser dans la cour un puits profond. Il fit descendre la princesse aux cheveux d'or et fit combler le puits. 6 jours après, à la place où la jeune fille avait été enterrée vivante, on vit briller une lumière. Alors le tsar fit fouiller la terre et l'on y trouva la princesse aux cheveux d'or. Enfin, la marâtre fit creuser le tronc d'un énorme mûrier, y fit enfermer la princesse. Puis l'arbre fut coupé et jeté dans la mer. Le 9e jour, la mer rejeta l'arbre sur les côtes du Japon. Les Japonais retirèrent de l'arbre la belle princesse vivante. Mais aussitôt qu'elle vit le jour, elle mourut et se transforma en ver à soie. Le ver à soie grimpa sur le mûrier et se mit à ronger les feuilles. Un jour, il ne mangea plus et cessa de se mouvoir. Mais 5 jours après, c'était l'espace de temps que la princesse avait passé dans le désert, le ver se ranima. De nouveau, il rongea les feuilles de l'arbre pendant quelques jours et se rendormit. Puis, au bout d'un temps égal à celui que les vautours avaient mis à rapporter la princesse, le ver se ranima encore et se rendormit. Enfin, pour la 5e fois, le ver mourut et se réveilla cocon soyeux et doré. De ce cocon sortit un papillon qui se mit à pondre. Des œufs pondus, de nouveaux vers éclorent et se répandirent dans le Japon. Le Japon cultive une grande quantité de vers et fabrique beaucoup de soie. Le ver s'endort 5 fois et 5 fois se ranime. Les Japonais appellent le premier sommeil du ver « sommeil du lion », le deuxième « sommeil du vautour », le troisième « sommeil du bateau », le quatrième « sommeil du puits » et le cinquième « sommeil du tronc ».
Le requin. Récit. Notre navire jeta l'ancre sur les côtes d'Afrique. La journée était belle, une brise fraîche venait de la mer. Mais vers le soir, le temps changea, on suffoquait, un air chaud soufflait du désert du Sahara comme d'une fournaise. Avant le coucher du soleil, le capitaine monta sur le pont et donna l'ordre à l'équipage de se baigner. En un instant, les matelots descendirent une tente et improvisèrent une salle de bain. Il y avait avec nous 2 mousses. Ils furent les premiers à sauter dans l'eau. Mais se trouvant à l'étroit dans cet entourage de toile, ils filèrent au large et se mirent à la course. Tous deux prenaient leurs ébats comme 2 lézards. L'un prit d'abord de l'avance sur son camarade, mais bientôt se laissa devancer. Le père de l'enfant, un vieil artilleur, était sur le pont et admirait les prouesses de son fils quand le gamin ralentit sa marche. Le père lui cria « Ne te laisse pas devancer, encore un effort !» Tout à coup, quelqu'un du navire cria « Un requin !» Et tous, nous aperçûmes sur l'eau le dos du monstre marin qui nageait droit vers les gamins. Arrière, arrière, revenez vite, un requin, criait l'artilleur. Mais les enfants riaient, s'amusaient et, ne l'entendant pas, continuaient à nager. L'artilleur, pâle, immobile, ne quittait pas les enfants des yeux. Les matelots détachèrent vivement une barque dans laquelle ils se jetèrent et, ramant à briser les rames, volèrent au secours des mousses. Mais ils étaient encore loin des enfants que le requin n'en était plus qu'à 20 coudées. Les gamins n'avaient rien vu ni entendu, mais soudain l'un d'eux se retourna. Nous entendîmes un cri d'épouvante. Puis les enfants se séparèrent. Le cri avait tiré l'artilleur de sa torpeur. Il courut au canon, ajusta et prit la mèche. Nous restions pétrifiés, attendant ce qui allait se passer. Le coup retentit et nous vîmes l'artilleur retomber auprès de son canon en se cachant le visage de ses mains. La fumée nous empêchait de voir le requin et les enfants. Mais lorsque la fumée s'éleva, nous entendîmes un doux murmure qui se changea bientôt en un cri de joie générale. Le vieil artilleur découvrit son visage, se leva et regarda la mer. Le ventre jaune du requin était ballotté par les vagues et, un instant après, la barque ramenait les deux enfants à bord du navire. L'habit neuf du tsar. Conte. Un tsar aimait fort les habits somptueux et ne pensait qu'à se parer le mieux possible. Un jour, deux tailleurs vinrent chez lui et lui dirent « Nous pouvons te faire un habit si beau que personne n'en a jamais possédé de pareil. Seulement, celui qui est sot ou qui n'est pas à la hauteur de ses fonctions ne peut pas distinguer notre habit. Celui qui est intelligent le verra parfaitement, tandis que celui qui est sot restera à côté sans le voir. » Le tsar se réjouit à cette proposition des tailleurs et commanda l'habit. On donna une pièce de drap au tailleur pour travailler et on leur apporta du velours, de la soie, de l'or, enfin tout ce qu'il faut pour confectionner un habit. 8 jours s'écoulèrent. Le tsar envoya son ministre s'informer si le nouvel habit était prêt. Le ministre arriva et demanda l'habit au tailleur qui lui répondirent qu'il était prêt en lui désignant une place vide. Le ministre, sachant que celui qui était sot et indigne de son emploi ne pouvait voir l'habit, feignit de le voir et les complimenta. Le tsar se fit apporter l'habit. On le lui apporta et on lui désigna une place vide. Le tsar feignit à son tour de voir le nouvel habit. Il ôta celui qu'il portait et ordonna qu'on le revêtît de ce riche habit. Quand le tsar sortit pour se promener par la ville, tout le monde voyait que le souverain ne portait pas d'habit, mais chacun craignait de le dire, sachant que les sots seuls n'avaient pas le don de voir le nouvel habit, et chacun pensait que lui seul ne le voyait pas, mais que les autres, plus heureux, pouvaient le voir. Ainsi se promenait le tsar à travers la ville, et tous ses sujets admiraient son nouvel habit. Tout à coup, un innocent aperçut le tsar et s'écria « Regardez ! Le tsar se promène dans la ville déshabillé !» Et le tsar sentit sa honte le gagner, et tout le monde comprit qu'il n'avait réellement pas d'habit.
Comment un moujik fit disparaître un bloc de pierre. Histoire vraie. Sur la place d'une ville se trouvait une énorme pierre qui était fort encombrante et gênait la circulation. On fit venir des ingénieurs et on leur demanda s'ils pourraient enlever la pierre et combien cela coûterait. L'un dit qu'il fallait la faire sauter avec de la poudre afin qu'on pût l'extraire morceau par morceau et que cela coûterait 8 000 roubles. L'autre dit qu'il faudrait amener un rouleau sur lequel on glisserait la pierre, ce qui reviendrait à 6 000 roubles. Un moujik dit alors « Moi, je ferai disparaître la pierre et je ne prendrai que 100 roubles. » on lui demanda comment il procéderait. Et il répondit « Je creuserai près de la pierre un grand fossé. Je ferai tomber la pierre dans le fossé, puis j'égaliserai le terrain. » On le laissa faire. Il reçut ses 100 roubles et, de plus, à titre de gratification, 100 autres roubles pour son ingénieuse idée.
Les trois voleurs. Histoire vraie. Un moujik conduisait un âne et un bouc au marché de la ville pour les vendre. Un grelot était attaché au cou du bouc. Trois voleurs aperçurent le moujik. L'un d'eux dit « Je vais lui voler son bouc et il ne s'en apercevra même pas. » Un autre voleur dit « Moi, après, je lui volerai son âne. » « Ce n'est pas difficile non plus, » dit le troisième voleur. « Quant à moi, je lui volerai tous ses vêtements. » Le premier voleur s'approcha furtivement du bouc, lui ôta son grelot, qu'il attacha à la queue de l'âne, et emmena le bouc. Au détour de la route, le moujik se retourna et, n'apercevant plus le bouc, se mit à sa recherche. Alors le second voleur aborda le moujik et lui demanda ce qu'il cherchait. Le moujik lui répondit qu'on lui avait volé son bouc. « Je l'ai vu, ton bouc, » reprit le voleur. « Il n'y a qu'un instant, un homme passait dans la forêt avec l'animal, tu peux encore le rattraper. » Le moujik courut à la recherche de son bouc et confia l'âne au voleur. Celui-ci s'empressa de fuir avec l'animal. Quand le moujik revint et qu'il vit que l'âne avait disparu, il se mit à pleurer et s'en alla tout droit devant lui. Sur la route, près de l'étang, il rencontra un homme qui pleurait aussi. Le moujik lui demanda ce qu'il avait. L'homme lui raconta qu'on l'avait chargé de porter à la ville une sacoche pleine d'or, qu'il s'était endormi près de l'étang et que, pendant son sommeil, la sacoche était tombée dans l'eau. Alors le moujik lui demanda pourquoi il ne se jetait pas à l'eau pour la chercher. « Je crains l'eau, dit l'homme, et je ne sais pas nager, mais je donnerais bien 20 pièces d'or à celui qui me la retirerait. » Le moujik parut tout joyeux. Il pensa « Dieu veut réparer la perte que j'ai faite de l'âne et du bouc. » Il se déshabilla, descendit dans l'eau, mais ne trouva pas la sacoche. Quand il sortit de l'eau, ses habits avaient disparu. C'était le troisième voleur qu'il avait volé.
Soukman, balade. Chez le bienveillant duc Vladimir, on festoyait en l'honneur des boyards, des princes, des nobles chevaliers. Et pendant ce festin, tous vantaient leurs vertus. L'un vantait ses richesses, l'autre vantait son coursier, le fort vantait sa force, le sot vantait sa jeune femme. Le sage, enfin, vantait sa vieille mère. À table, absorbé dans ses pensées, seul le chevalier Soukman ne se vantait de rien. Vladimir, le duc, le beau soleil, dans la grande salle se promène, secouant sa chevelure blonde, et tient à Soukman ce discours. « Et pourquoi, chevalier, restes-tu rêveur? Pourquoi ne manges-tu pas, ne bois-tu pas? Pourquoi ne goûtes-tu pas au cygne blanc? Et ne te vantes-tu de rien à ce festin ?» Et Soukman dit les paroles suivantes. « Puisque tu l'ordonnes, je vais me vanter. Et je vais t'amener un cygne blanc, non pas blessé, non pas ensanglanté, mais vivant, entre mes mains. » Et Soukman se dressa sur ses jambes agiles et harnacha son beau cheval. Il s'en alla, Soukman, vers la mer bleue, vers la baie calme, et arriva, Soukman, vers la première baie et n'y trouva pas le cygne blanc. Il s'en alla, Soukman, vers une autre baie et n'y trouva ni oie ni cygne. Et pas davantage à la troisième baie, il n'y avait d'oie grise ni de cygne blanc. Alors Soukman resta perplexe. « Comment retournerai-je à la belle ville de Kiev ? Que dirais-je au grand-duc Vladimir ? Il s'en alla vers la rivière Dniepr et trouva le Dniepr tout troublé, tout changé dans son aspect. L'eau y était chargée de sable. Alors, Soukman demanda au Dniepr fleuve « Pourquoi, fleuve, es-tu ainsi ? Ton aspect n'est plus comme autrefois, ton eau est mêlée de sable. » Et le fleuve Dniepr lui répondit « Mon aspect n'est plus comme autrefois, parce que derrière moi, fleuve Dniepr, arrivent 40 000 Tartares, qui construisent des ponts du matin au soir, et ce qu'ils font le jour, je l'emporte la nuit. Mais mes forces sont épuisées. » Alors Soukman dit les paroles suivantes. « Où serait mon honneur de chevalier si je ne mesurais pas mon courage avec la force tartare ?» Et il lança son fier coursier. Il passa le fleuve Dniepr sans mouiller le sabot de son cheval. Il courut Soukman près d'un vieux chêne, près d'un chêne tout rabougri. Il arracha l'arbre et ses racines. Un suc blanc coula du chêne. Il prit le chêne comme un gourdin et lança sa monture contre les tartares. Il tourna, retourna Soukman, levant et brandissant son gourdin. Quand il frappait en avant, c'est toute une rue qu'il rasait. Et en arrière, il détruisait une ruelle. Il extermina ainsi Soukman tous les ennemis. Trois jeunes tartares seulement s'enfuirent dans les arbustes sous les ormes. Ils se cachèrent au bord du Dniepr. Soukman s'approcha du fleuve. Et de leur cachette, les trois tartares lancèrent à Soukman trois flèches qui frappèrent ses côtes et trouèrent sa peau blanche. Soukman, la lumière, retira les flèches de ses côtes, de ses plaies ensanglantées, qu'il boucha de feuilles de coquelicot. Et il égorgea les trois petits tartares. Soukman revint chez le duc Vladimir. Il attacha son cheval à un poteau et lui-même entra dans la salle du festin. Vladimir, le duc, le beau soleil, se promène à travers la salle et demande au chevalier Soukman. « Eh bien, Soukman, tu ne m'apportes pas un signe blanc non ensanglanté ?» Et Soukman dit les paroles suivantes. « Oï, Vladimir le duc, au bord du Dniepr, ce n'est pas au signe que j'avais à penser. Je rencontrais au-delà du fleuve Dniepr une force armée de 40 000 de méchants tartares qui marchaient sur la ville de Kiev. Ils construisaient des ponts du matin au soir et la rivière Dniepr les emportait la nuit. Mais elle était à bout de force. Je lançai alors mon cheval contre ces tartares et je les battis tous, jusqu'au dernier. » Vladimir, le duc, le beau soleil, n'eut pas confiance en ses paroles. Il ordonna à ses fidèles serviteurs de prendre Soukman par ses bras blancs et de l'enfermer dans de profonds caveaux. Et il envoya vers le Dniepr Dobrynouchka pour se convaincre des exploits de Soukman. Dobrynouchka se dressa sur ses jambes agiles. Il harnacha son rapide coursier, il courut dans les champs jusqu'au fleuve. Là il vit, gisant à terre, une force armée de 40 000 guerriers exterminés. Et auprès d'eux, le chêne avec ses racines, l'arbre fendu en 1000 lattes. Dobrynouchka soulève le chêne et l'apporte au duc Vladimir et lui parle en ces termes. Il se vante de la vérité, Soukman. Derrière le fleuve Dniepr, j'ai vu gisant 40 000 méchants tartares, et le gourdin de Soukman s'est fendu à ce terrible massacre. Alors, Vladimir le duc ordonne à ses serviteurs d'aller dans les profonds caveaux, d'en faire sortir au plus vite Soukman, de l'amener devant ses yeux limpides. Et, dit Vladimir, pour ses services si grands, je comblerai de bienfaits ce brave chevalier. Je lui donnerai pour toujours des villes avec leurs faubourgs, des bourgs avec leurs villages, des richesses sans mesure. » Ils vont dans les caveaux profonds, les fidèles serviteurs, chercher Soukman, et ils lui tiennent ce discours. « Sors, chevalier Soukman du caveau, Vladimir le duc te gracie. Pour tes glorieux exploits, notre soleil veut t'accorder des villes avec leurs faubourgs, des bourgs avec leurs villages, des richesses sans mesure. » Il sortit Soukman dans les champs et il dit les paroles suivantes. « Oï, Vladimir, le duc, le beau soleil, tu devais à temps me témoigner ta reconnaissance, tu devais à temps me combler, car maintenant tu ne me verras plus, tu ne regarderas plus mes yeux limpides. » Et Soukman retira de ses plaies les feuilles de coquelicot. Et il dit, Soukman, la lumière. Coule mon sang, deviens rivière. Mon sang vermeil, sang inutile, coule Soukman. Ah, Soukman, rivière, sois du Dniepr fleuve, la sœur.